partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à tous, Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue, excellente journée à vous tous qui avez choisi de nous écouter dans l'économie en direct sur IDFM Radio, la radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio sur 98.fr, en DAB+ sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Préserver son patrimoine, qu'il soit historique, républicain, culturel, c'est le thème de notre émission ce matin, vendredi 26 mai. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy David. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jacqueline.
Ravi de vous recevoir une nouvelle fois dans nos studios.
Merci à vous.
Historien de l'art, animateur de chantier des monuments historiques, membre du cercle Beaumontois du patrimoine à Beaumont-sur-Oise, où vous occupez les fonctions de secrétaire général et de responsable des collections archéologiques et artistiques de Beaumont. À ce titre, vous occupez aussi parfois la responsabilité de commissaire d'exposition pour la Maison du Patrimoine, Hôtel du Croissant de Beaumont-sur-Oise, des activités entièrement bénévoles.
Oui, tout à fait.
Avec nous ce matin pour nous sensibiliser sur l'importance de ce bénévolat et nous informer de nombreux événements à venir, dont un dans deux jours, ce dimanche 28 mai.
Oui, le dimanche 28 mai, nous faisons avec la Fédération Nationale Rempart, qui est notre fédération à laquelle nous appartenons pour les chantiers de bénévoles. Eh bien, nous organisons un festival des savoir-faire d'Île-de-France, de ces chantiers, qui aura lieu à Rambouillet, à la Bergerie Nationale, de 14h à 19h, où tout le monde est le bienvenu.
Très bien, on va en parler tout en détail tout à l'heure, hein, Jérémy, merci. À vos côtés, Miss Confidentielle. Bonjour Miss Confidentielle.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Miss Confidentielle, un pseudo auquel vous tenez et que nous respecterons tout au long de l'émission. Éditrice et journaliste du média en ligne missconfidentielle.com. Vous nous dévoilerez quand même, hein, non pas votre véritable identité, mais comment la création de ce média est née, et vous nous expliquerez votre parcours riche, vos objectifs et vos envies.
Ce sera avec grand plaisir, Jacqueline.
Merci. À vos côtés, Frédéric Bouchardy. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jacqueline.
Également ravi de vous accueillir à IDFM Radio.
De même, merci de me recevoir.
Gérant d'une société de consulting Inspire Action Consulting, vous êtes aussi, et c'est la raison qui vous amène sur ce plateau, président de la compagnie Let It Be, une aventure créée en août 2022, procédant à la création, diffusion et production de spectacles vivants, musicaux et audiovisuels sous toutes ses formes. Vous nous expliquerez comment cette compagnie a vu le jour, ses aspirations et toutes ses caractéristiques.
Avec grand plaisir.
Bienvenue à tous les trois et merci d'être les invités en direct de l'économie en direct sur IDFM Radio. Avant de m'entretenir avec vous, nous avons dans l'économie en direct des chroniques. Aujourd'hui, vendredi, nous allons retrouver Pierre Vandamme, banquier marathonien, fondateur de l'agence web marketing Fibre Digitale et qui, à la suite de son interview dans l'émission, comme vous, chers invités, a souhaité devenir chroniqueur. Voilà, il est venu et puis il est devenu chroniqueur juste après, ce dont nous nous félicitons à l'antenne. Bonjour Pierre.
Bonjour Jacqueline, bonjour chers invités et auditeurs.
Merci
d'être avec vous pour partager ce beau soleil.
Oui, merci d'être au rendez-vous Pierre. Alors, quel sujet allez-vous partager avec nous ce matin?
Alors, tout simplement qu'on se rend compte que d'un point de vue vie personnelle, familiale, amicale ou même professionnelle, et puis passion, sport, bah, il est important de se fixer des objectifs pour y trouver un équilibre. Et donc, on va essayer d'y répondre sur comment se les fixer.
C'est ça, un moyen de structurer son esprit, de déterminer ses priorités, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le plus difficile, c'est pas forcément de savoir où on veut aller, mais c'est comment y parvenir, un peu comme une technique de petits pas. Et l'enjeu, bah, comme me l'a dit un coach sportif, hein, il faut se lever avec une certaine détermination pour se coucher avec satisfaction et apaisement. Donc savoir se féliciter.
Une belle citation hein, qu'il faut retenir. Alors, Pierre, vous savez qui sont nos invités ce matin, donc ça vous a inspiré pour cette chronique ?
Eh ben oui, puisque on peut parler de patrimoine hein, en tant qu'ancien banquier, mais voilà, quel est son patrimoine au jour le jour ou de vie ? Et c'est vrai qu'une citation de Sénèque qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas », c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont effectivement difficiles. Et l'enjeu, bah, c'est d'y trouver cet équilibre au quotidien et à l'esprit. Et donc voilà, je vais interroger un petit peu l'auditoire sur voilà cette capacité effectivement à trouver le temps, se récompenser, trouver des zones de réalisation, de détermination ou voilà comment définir un objectif de manière quantitative ou qualitative.
Alors, quels sont vos conseils, Pierre ?
Alors, il peut y en avoir plein, mais j'en ai déterminé quatre. Alors, le premier, c'est le fameux SMART. Alors, voilà, un peu anglicisme, mais c'est surtout aussi un élément quand on est dans le domaine commercial, mais qui s'applique aussi dans la vie de tous les jours, de définir en fait un objectif qui soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, dans tout ça, c'est de trouver comment, dans le temps, est-ce que c'est jour, semaine ou mois, pour pouvoir effectivement atteindre un objectif. Le deuxième, c'est savoir se féliciter. Il faut toujours dire, ben, j'ai pu mettre des moyens ou j'ai peut-être atteint partiellement l'objectif. Un peu comme quand on est aux Jeux Olympiques, on peut toujours viser la médaille d'or, mais on a aussi la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le deuxième voilà, conseil, c'est justement de pouvoir se féliciter et prendre le temps. Le troisième, j'en avais parlé lors d'une émission précédente, c'est de trouver sa fréquence, la zone qui nous permet de dépasser des peurs, mais d'être apaisé dans une zone des réussites et d'avoir envie de le partager. Et donc, le quatrième, c'est avant tout de se connaître, de faire les choses en fonction de soi, pas par rapport aux autres, ou tout simplement par rapport à des éléments qui nous entourent, mais les faire pour soi, s'accomplir, trouver un épanouissement. Et donc ça va passer dans les éléments dont on parlait de manière mesurable, avoir des informations, des points de passage, ou peut-être le faire juste au feeling. C'est pour ça qu'en tant que marathonien, j'aime bien faire le parallèle avec ben, quand on court, est-ce qu'on court avec une montre ou est-ce qu'on court avec le ressenti du corps ? Et voilà, il faut vraiment le faire en fonction de qui on est et de comment on veut le faire avancer.
Des conseils très précieux. Je pose peut-être la question à mes invités. Ouais. Est-ce que ces conseils vous inspirent ? Jérémy ?
J'ai beaucoup apprécié la référence à Sénèque, oui. Étant moi-même spécialiste de la littérature du XVIe siècle qui était très antiquisante et qui faisait souvent référence à Sénèque. Ouais. Et je crois que oui, quand on commence à faire les choses, elles paraissent moins difficiles, même si on prend toute la conscience de la responsabilité et de la difficulté que ça peut être, notamment pour les chantiers de bénévoles. Je crois que lorsqu'on commence à s'y mettre, oui. On se rend compte ce que c'est que d'être ouvrier sur un chantier. Même si on ne le fait que pour 2 semaines, on imagine ce que c'est que de l'être au quotidien et ça fait prendre conscience de tout ça.
On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine.
Exactement.
Frédéric ?
Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a 2 notions qui sont que, effectivement, d'abord, on se met souvent des limites en se disant c'est inatteignable, c'est impossible, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit d'un petit peu d'énergie et on y va. Et souvent, on trouve des soutiens autour de soi qui nous aident beaucoup. Et l'autre chose aussi importante, c'est de trouver des limites à ça. Oui. C'est-à-dire que, oui, on peut travailler, on peut faire des choses, mais il ne faut pas oublier l'humain. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des machines. Il faut respecter les individus. Et il faut se respecter aussi soi-même. Donc, c'est vraiment des notions qui sont complémentaires et importantes pour arriver, je pense, aux objectifs et puis surtout prendre beaucoup de plaisir dans
ce qu'on fait. Bon équilibre. Ouais. Mise confidentielle.
Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Déjà, c'est plutôt bien. Je peux apporter une petite information complémentaire en matière culturelle, puisqu'on évoquait le patrimoine. J'ai effectivement beaucoup apprécié la citation de Sénèque. Et sachant que nous allions justement évoquer le sujet du patrimoine aujourd'hui, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller travailler au niveau des racines latines.
Oui.
Et notamment sur le mot patrimoine.
Oui.
Donc, une petite précision qui est justement... un niveau du latin qui vient de patrimonium et qui veut dire héritage du père. Et en faisant des recherches justement sur le patrimoine, on y voit effectivement l'évolution, sachant qu'au départ, donc patrimonium, l'héritage du père, signifiait désigner en fait l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants. Il a alors un sens de bien individuel. La notion de patrimoine dans son acceptation de bien collectif peut se définir comme l'ensemble des richesses d'ordre culturel, et ça je pense qu'on en parlera, donc matériel et immatériel appartenant à une communauté héritage du passé ou témoin du monde actuel.
Merci Valérie, parce que voilà, j'avais l'intention de donner cette définition, donc vous l'avez fait pour moi, c'est formidable. Pierre, après ces conseils, donc il faut savoir comment et pourquoi construire un plan d'action, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai apprécié cette notion du champ des possibles, se faire plaisir et déterminer un cadre ou des limites. Pour autant, dans certains cas, elles peuvent être dépassées. Mais je suis d'accord qu'il faut quand même avoir des éléments, des ancrages, des points de repère. Et donc, définir le plan d'action, c'est déjà définir un outil. Est-ce qu'on le fait de manière digitale, avec des outils tableurs ou autres, ou tout simplement un papier, mais surtout de le projeter dans le temps. Faire des arrêtés pour voir si je suis dans le cadre ou si je les ai dépassés. Donc, ça peut être des éléments chiffrés, mais ça peut être aussi des éléments quantitatifs, enfin, voire qualitatifs, de satisfaction. J'ai apporté du bonheur aux autres, à moi-même. Voilà, ça peut être plein de choses. Le tout, c'est de les définir et peut-être de dire, voilà, si est-ce que c'est plus émotionnel, instinctif ou voilà plutôt rationnel, structuré et mathématique. Et dedans, il est important de pouvoir s'accorder du temps pour soi. Et puis peut-être aussi d'en donner aux autres, puisque c'est un peu le fil rouge de la plupart des émissions. Mais pour autant, voilà, il faut arriver à se discipliner, quoi qu'il arrive, de pouvoir effectivement le suivre. Donc que ça soit de manière professionnelle ou même voilà dans le cadre de ses passions.
Et alors un dernier conseil qui vous est cher, je le sais maintenant, c'est la méditation.
Ah oui, la méditation. Alors je vais effectivement prendre une petite minute pour amener les gens, puisque quand on parle de fixer des objectifs, c'est aussi visualiser sa réalisation, voire la réussite. Et donc, alors ceux qui conduisent, bien entendu, qui gardent les yeux ouverts, une posture, une position droite, mais ceux qui nous écoutent de chez eux, sans que ça soit problématique pour le transport, vous allez vous asseoir confortablement et fermez les yeux pour vous centrer sur votre attention et la respiration. Il va être calme et régulière. Donc l'enjeu, c'est de relâcher tout le corps. Et là, en fermant les yeux, vous allez vous projeter dans un futur proche, celui dans lequel vous voulez atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Ça peut être l'objectif du jour, comme dans quelques semaines et quelques mois. Vous allez donc écouter les sensations que votre corps va vous donner. Et donc là, vous allez entendre ce qu'il dit autour de vous. Votre entourage vous félicite. Vous vivez pleinement cette réussite. Et en allant revenir sur les étapes qui vous ont permis de l'atteindre, vous allez voir que ces petits pas qui vous ont mené à ce succès vous permettent d'établir un compte à rebours pour que chacune des étapes qui conduisent à ce succès vous permette d'en accomplir des nouveaux. Vous n'allez pas refaire le match, au contraire, vous allez le partager avec vous-même et tout autour. Quelles que soient les étapes et les difficultés que vous avez rencontrées, comme vous les avez surmontées et trouvées des solutions, ça vous permet d'éprouver que l'investissement que vous avez accompli vous permet d'avoir trouvé des nouvelles ressources, de les avoir activées en interne et en externe. Donc, savourez ce moment, prenez quelques instants pour vous, le conforter, revenir ici et maintenant avec nous, 3 respirations profondes, étirez votre corps de haut en bas et vous pouvez réouvrir les yeux pour cette belle émission dédiée au patrimoine.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre, pour cette Belle introduction à l'émission, comme à chaque fois. Je rappelle que votre agence est spécialisée dans la création de sites web, vitrines e-commerce et tous les services alternants. Donc on se revoit encore, on se réécoute une fois avant la fin de la saison. J'ai pas la date en tête, mais je sais qu'on a rendez-vous encore une fois avant la fin de la saison. Donc merci Pierre, belle journée, à très vite, au revoir.
Et également à vous aussi, chers auditeurs et participants à la réunion.
Merci Pierre, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, l'économie en direct se consacre aujourd'hui au patrimoine sous plusieurs formes, historique, citoyen, voire républicain et artistique. Pour en parler, à mes côtés, Jérémy David, historien de l'art, animateur de chantier des monuments historiques, membre du Cercle Beaumontois du patrimoine d'un Beaumont-sur-Oise, Miss Confidentielle, éditrice et journaliste du média en ligne missconfidentielle.com, dont nous avons hâte d'en savoir plus. Frédéric Bouchardy, gérant d'une société de consulting Inspire Action Consulting, président de la compagnie Let It Be. Jérémy, David, alors c'est précisément le patrimoine qui nous a réunis récemment lors de l'inauguration de la Marianne de Gas, il y a quelques jours à Beaumont-sur-Oise, en présence de nombreuses personnalités du Val d'Oise. Une œuvre qui rend hommage aux femmes opprimées dans le monde à travers Mahsa Amini, étudiante iranienne arrêtée pour un voile mal ajusté et qui est décédée pendant sa détention. Un signal fort en regard des actions de la ville de Beaumont, que la ville de Beaumont mène déjà activement et pour soutenir la cause féminine et dans le domaine de l'appropriation de l'histoire du patrimoine.
Tout à fait. Le travail que fait la ville de Beaumont depuis quelques années maintenant, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, nous, au Cercle Beaumontois du patrimoine. C'est faire que les habitantes, les habitants aient un rapport plus direct à leur patrimoine, à leur histoire. Et la sculpture de Gas est représentative de cela. C'est un artiste qui a été en résidence, qui est toujours, je crois, en résidence dans notre commune depuis un an et demi. Et qui est très porté par un art engagé. La sculpture qu'il a faite pour nous, et dans d'autres villes dans le monde d'ailleurs, est une sculpture qui a imprégné l'espace public et qui maintenant fera partie du paysage beaumontois. Et ce qui est assez symbolique et beau, c'est que le buste de la Marianne sous les traits de Mahsa Amini se situe devant un endroit qui est symbolique pour les Beaumontois. C'est le kiosque où les gens se marient, prennent leurs photos de mariage, et je trouve ça beau de se marier devant un symbole de, malheureusement, la brutalisation des femmes, mais aussi de l'émancipation des femmes.
Oui.
Donc c'est quelque chose, d'assez positif.
C'est vrai, un événement magnifique. Le buste était sous de la glycine en fleurs, c'était vraiment magnifique.
Oui, il y avait un cadre champêtre assez sympathique.
Très bien. Alors, Jérémy David, aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous exposer plusieurs événements. Donc je vous laisse... Nous les présenter.
Alors merci. Alors je suis très content d'en parler aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de Rempart.
Oui.
J'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas une fédération, mais une union. Et c'est très important. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Jacqueline, vous avez dit que c'est le patrimoine qui nous réunit. Mais d'ailleurs, la devise de Rempart, c'est faire du patrimoine un trait d'union. Et c'est quand même, je trouve, assez beau d'envisager le patrimoine comme cela. Notre invité, Miss Confidentielle, nous a fait une très belle définition du patrimoine, qui est un point de départ pour essayer de comprendre cette notion difficile qu'est le patrimoine,
oui,
qui est pas
c'est
forcément
complexe,
évidente,
absolument.
Exactement, qui est très large. Mais c'est quelque chose qui, nous travaillons au jour le jour. C'est-à-dire de comment faire du patrimoine une chose sensible au quotidien. Et Rempart, qui existe depuis maintenant une cinquantaine d'années, dont la section Île-de-France va fêter ses 40 ans aujourd'hui même à Paris au pavillon de l'Arsenal, et on en est très fiers et très contents. Et bien, Rempart s'attache à cela. C'est toujours envisager le patrimoine comme un lieu de rencontre, comme un lieu d'union et comme un lieu de transversalité entre les métiers, entre les classes sociales, entre les gens, et de porter quelque chose qui nous dépasse un peu et qui en même temps nous rappelle ce qui nous réunit, qui nous sommes.
Oui, le terme trait d'union est complètement approprié.
Tout à fait.
Absolument.
Et donc on commence aujourd'hui, vendredi 26 mai, avec les 40 ans du GRIF, le groupement Rempart Île-de-France, qui aura lieu au pavillon de l'Arsenal et qui permettra de dévoiler une exposition très belle, je pense, mais je vais la découvrir en même temps que les autres. Donc je suis très très impatient parce que le château de Beaumont-sur-Oise, sur lequel notre association travaille depuis 2014, mais sur lequel le premier chantier a eu lieu l'an dernier, en 2022, à l'occasion de l'anniversaire des 1000 ans, du comté de Beaumont-sur-Oise, eh bien, le château de Beaumont-sur-Oise fait partie de cette exposition. Et c'est une artiste, Sandrine Bonamy-Redler, qui est une graphiste, qui a imaginé les sites franciliens de remparts dans 40 ans. Comment les associations, alors tout à l'heure on parlait d'objectifs, c'est très difficile pour nous d'avoir des objectifs de court terme, c'est-à-dire que on sait ce qu'on veut faire, par exemple année par année, chantier par chantier, mais on ne sait pas exactement où on va, parce que les choses évoluent. Et on sait que le château, en fait, est-ce qu'on a envie qu'il y ait un objectif qui se termine? Je suis pas sûr qu'on ait envie que ça s'arrête. On a envie que les chantiers se continuent, que les chantiers aient toujours quelque chose à apporter, et que les monuments dont on s'occupe deviennent vraiment des lieux in progress, comme on dit en anglais, toujours en mouvement. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Et on a essayé de donner quelques idées avec notre présidente Marie-Camille Svetovidov. Quelques idées de comment serait le château dans 40 ans. Alors on a imaginé un château très fleuri, très accueillant pour les oiseaux, mais aussi pour les humains. Et un château qui retrouverait un espace beaucoup plus ouvert à l'humain, et qui serait comme une sorte de jardin que les gens aimeraient à cultiver et se cultiveraient eux-mêmes en cultivant le jardin du château. Et c'est un peu notre rêve de faire tout ça et de que les gens puissent s'épanouir à l'intérieur du château, comme les fleurs y s'épanouissent également.
Et ouais, c'est très beau ce que vous dites. Et surtout donner l'envie que les générations futures reprennent le flambeau, parce
exactement.
Que comme c'est à très long terme, ça me fait penser à, alors ce sont pas une restauration, mais la Sagrada Familia qui a été mise en route par son auteur et puis qui continue d'évoluer
et qui se perpétue. On ne sait pas si un jour elle sera terminée.
Ouais,
et
ouais,
c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir l'inachevé.
Ouais.
Et le château de Beaumont-sur-Oise, c'est quelque chose de particulièrement émouvant, parce que c'est le cœur de la ville, et qui a été redécouvert assez récemment. Alors assez récemment, ça va faire 40 ans, d'ailleurs, je peux annoncer un autre événement, c'est l'exposition que j'ai l'honneur de diriger au mois de juillet, qui ouvrira le 12 juillet à l'Hôtel du Croissant, maison du patrimoine de Beaumont-sur-Oise, et une exposition qui va retracer l'histoire des chantiers à Beaumont, de 1984 à 2023, et même un peu avant 1984, parce qu'en réalité, les chantiers ont commencé avec la curiosité des Beaumontoises et des Beaumontois qui voyaient ce château dans leur vie mais qui ne savaient pas ce que ça représentait et qui avaient envie de voir ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que petit à petit, ce château qui avait été enseveli sous des litres et des litres de terre, c'était vraiment quelque chose de presque effacé dans la ville. Pas tout à fait oublié, mais en tout cas dont on ne prenait plus conscience de ce que ça représentait il y a plusieurs siècles.
On n'avait pas conscience de ce patrimoine
exactement.
Existant.
Mais ça faisait quand même partie de la vie des gens. Et quand les fouilles archéologiques ont eu lieu dans les années 80, ça a accompagné des projets d'urbanisme colossaux de restructuration du centre-ville, et ça a totalement changé l'image de la ville, je crois. Et aujourd'hui, on essaye de relancer quelque chose de nouveau pour continuer dans ce sens de l'amélioration de ce centre-ville, parce que quand on fait un chantier de bénévoles, on fait venir des gens d'un peu partout, de France ou dans le monde, et qui font vivre à la fois les commerces locaux, qui font une dynamique et à la fois économique et sociale sur le territoire, et on fait fonctionner également d'autres métiers. Et ça, c'est l'occasion de parler du Festival des savoir-faire que j'ai évoqué tout à l'heure, qui aura lieu à Rambouillet, ou à la Bergerie Nationale, avec les moutons albinos de Marie-Antoinette. Et à la Bergerie Nationale, nous faisons un festival où tous les métiers qui sont sur les chantiers seront représentés, que ce soit la taille de pierre, que ce soit le travail de la terre, de la verrerie, que ce soit le travail des archives, que ce soit le travail du jardinage, et tout un ensemble d'autres métiers, des métiers d'art, des métiers d'artisanat, qui sont des filières qui ont un avenir aujourd'hui. Parce que entretenir ce patrimoine, ce n'est pas seulement entretenir un patrimoine pour le conserver, pour le plaisir de le regarder comme si c'était dans du formol.
Sur une vitrine.
Exactement. Et j'allais dire muséifié, mais c'est pas exactement le terme, parce que un musée, c'est très vivant également. Ce n'est pas seulement un cimetière, comme disait Paul Valéry. Non, c'est vraiment l'idée que le patrimoine, c'est une source d'épanouissement des territoires, une source de développement qui est des métiers qui peuvent être intéressants pour à peu près tout le monde, parce que quand vous travaillez dans le patrimoine, vous pouvez autant faire des métiers très intellectuels, comme la conservation du patrimoine, l'histoire de l'art, mais aussi des métiers beaucoup plus manuels, comme la charpenterie, comme la ferronnerie, et tout cet ensemble de métiers qui, on dit anciens, mais qui sont très actuels aussi.
Oui, complètement. Vous en parlez avec passion et j'adore. Je voulais juste rappeler une chose qui est importante pour nos auditrices et auditeurs qui l'ont peut-être oublié la première fois que vous êtes venus. Donc, Beaumont-sur-Oise a fêté ses 1000 ans, mais c'est une ville qui a été créée par Jules César au moment de la conquête de la Gaule pour contenir les tribus gauloises.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que ça, c'est souvent...
C'est la légende.
Voilà. En fait, c'est ce qui est très intéressant avec Beaumont. C'est que Beaumont-sur-Oise, c'est une ville qui est... construite par ces légendes. C'est-à-dire que vous avez la légende de Jules César, vous avez la légende de Louis XIV qui est venu se reposer à l'hôtel du Croissant, vous avez la légende de Napoléon qui est venu quand il fuyait en 1815 les troupes de la coalition, et puis vous avez la légende de Pierre le Grand qui serait venu également. Enfin, Beaumont vit de ces légendes, mais quand on les analyse de plus près, on se rend compte que c'est encore mieux que la légende, en fait. C'est-à-dire que Beaumont a effectivement été fondé par les Romains, mais pas exactement par Jules César, plutôt par ses successeurs.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est une ville nouvelle, une ville romaine, qui se situe à l'intersection de plusieurs tribus gauloises, et c'est ce côté intersectionnel, ce côté carrefour commercial au bord de l'Oise et à équidistance de Beauvais et de Paris, qui va lui permettre de se développer en étant un carrefour commercial d'ordre assez important et surtout un passage de l'eau.
À l'identique de Saint-Denis un petit peu.
Et oui, tout à fait. Alors Saint-Denis, on peut penser aussi à Pontoise.
Oui.
Ce sont des villes un peu similaires dans leur morphologie et dans leur histoire.
Oui, avec vous parlez de l'eau, c'était vraiment un paramètre important.
Hein, tout à fait, parce que, par exemple, il y avait un port à Beaumont, dans l'époque antique, un port qui permettait le commerce notamment du bois et de tout un ensemble de vivres, mais surtout du bois et de la pierre. Et le contrôle du réseau hydrographique était, notamment au Moyen-Âge, un des moyens de contrôler le territoire.
Bien sûr.
Et ça a été la source du conflit avec des gens que vous connaissez ici à Enghien, qui sont les Montmorency, et qui étaient nos illustres voisins. Enfin, à l'époque, ils n'étaient pas si illustres que ça, parce que c'était des petits barons qui, en se mariant avec la sœur du comte de Beaumont, à l'époque, la fille du comte,
oui.
Agnès était la fille d'un des comtes de Beaumont, mais elle était également la sœur du plus important des comtes de Beaumont, Mathieu. Eh bien, les Montmorency cherchent une ascension sociale. Et comment ils souhaitent y parvenir, c'est que ce mariage leur apportait le passage de Conflans-Sainte-Honorine. Et ce Conflans-Sainte-Honorine appartenait à Beaumont-sur-Oise. Et ce passage-là était un passage économiquement majeur, puisque c'est la confluence de la Seine et de l'Oise où transitaient énormément de marchandises qui rapportaient beaucoup en taxes à ce moment-là.
Oui, le but recherché.
Et ça a créé la guerre entre Montmorency et Beaumont. Et d'ailleurs, Montmorency a gagné puisqu'on a quitté Conflans-Sainte-Honorine. Enfin, plus ou moins, on s'est partagé.
Bien. Écoutez, on pourrait vous écouter comme ça toute l'émission. Je pense qu'il va falloir aussi donner la parole à mes autres invités.
Oui, je vais pas monopoliser.
Non, non. Mais je voudrais je voudrais que vous nous parliez de l'opération Jardiner le château.
Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un peu de cette manière d'envisager le château dans 40 ans comme une sorte de grand jardin public.
Oui, oui.
Et j'ai remarqué, quand j'ai fait l'exposition qui va ouvrir le 12 juillet, que c'était déjà une idée en germe dans la tête des archéologues qui travaillaient en 1986 au château, en disant il faut ouvrir cet espace, il faut en faire une sorte de jardin public. Alors, Pour l'instant, ce n'est pas encore un jardin public parce que l'espace n'est pas sécurisé. Mais nous invitons nos bénévoles du 5 Beaumontois du patrimoine, hein, qui sont géniaux avec nous parce qu'ils viennent très régulièrement pour donner de leur temps, s'investir, donner aussi leur corps, parce que c'est physique, pour améliorer l'espace du château. Il faut savoir que le château de Beaumont, c'est des remparts, c'est un donjon qui est en ruine et c'est une église qui a quasiment entièrement disparu. Mais tout ça existe encore, en vestiges, recouvert de végétation, mais si on enlève toute cette végétation, on redécouvre la pierre, on redécouvre les murs de parement, et c'est assez émouvant quand on enlève très délicatement le lierre pour pas détruire la maçonnerie, on redécouvre ces parements de pierre, et ça c'est merveilleux. Donc, jardiner au château ou jardiner le château, j'aime bien cette expression de jardiner le château, d'envisager les pierres non seulement comme quelque chose de figé, de minéral, mais comme quelque chose de vivant. Et voir ces pierres qui, elles-mêmes, ont vu tant de choses passer au cours des siècles, sur certains endroits du château, vous avez des éléments de rubéfaction, qu'on dit, c'est-à-dire du rouge, et ce rouge n'est pas de la peinture, c'est des éléments d'incendie. De l'incendie qui date de l'invasion anglaise du 15e siècle. Et quand vous voyez ça, vous dites, mais je suis face à l'incendie du 15e siècle.
Absolument.
Et c'est très
émouvant. Avoir la conscience du moment présent.
Et c'est se dire que je suis au même endroit que les gens qui ont vécu ce drame, qui ont vécu ce drame il y a 500 ans. Et aujourd'hui, quand on enlève les branches, quand on enlève le lierre, quand on aménage un peu des espaces pour avoir de beaux rosiers, par exemple, eh bien, on participe à ce que le château ait une nouvelle vie. Une vie qui essaye d'harmoniser le minéral et le végétal, qui essaye d'envisager ce château comme un endroit que, comme je disais tout à l'heure, où on se cultive et on cultive le château. Et on essaiera de le transmettre dans cette double caractéristique à la fois historique, architecturale et organique.
Oui, une pierre de plus pour le tourisme culturel et économique.
Exactement, c'est-à-dire que nous croyons vraiment à une sorte de renaissance de Beaumont par le tourisme culturel. C'est quelque chose que porte notre présidente depuis le début, Marie-Camille Zvetovidov. Elle est convaincue, et je suis convaincu avec elle, que Beaumont a une carte à jouer dans le tourisme en Val d'Oise. Et nous travaillons d'ailleurs avec l'agence Val d'Oise Tourisme, avec les partenaires là-dessus, pour essayer de faire de Beaumont un endroit où l'on vient pour découvrir une histoire, pour prendre du plaisir également, pour se détendre, pour découvrir des œuvres d'art et aussi participer à des manifestations sportives, enfin y faire beaucoup de choses. Et je terminerai pour jardiner au château pour dire que c'est tous les troisièmes dimanches du mois, si les gens veulent venir, que la prochaine opération c'est le dimanche 18 juin à partir de 11h normalement, mais il faut nous envoyer un mail à cerclebp@gmail.com et vous aurez toutes les informations pour participer ou bien à l'opération jardiner le château ou bien à la promenade que nous faisons à 14h qui permet de faire visiter le château et l'église Saint-Laurent de Beaumont qui est elle aussi, il faudrait faire une émission entière dessus mais nous l'avons fait il y a quelques temps à Radio Anguin avec à l'époque Bernard Ventre et c'était très bien.
Oui, je voulais rendre hommage aussi à l'équipe municipale dont Jean-Michel Aparicio est le maire et qui épouse complètement toutes ces idées pour ce patrimoine.
Tout à fait, on a de la chance parce que en fait, le Cercle Beaumontois du patrimoine a beaucoup de chance de toute façon. Car déjà, la mairie précédente, on avait réussi à la convaincre. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais à la fin, elle était convaincue et elle nous a soutenus à la fin du mandat. Le nouveau maire, quand il est arrivé, a été tout de suite convaincu et nous a soutenus grâce également à son adjointe à la culture, Marlène Erlem, qui fait partie d'ailleurs nos bénévoles et qui est membre de notre association. Ils ont été convaincus par nos projets et ils nous ont soutenus. Et la ville est un soutien indispensable pour que aient lieu ces chantiers, pour que notre association puisse s'épanouir et pour qu'on puisse y faire encore beaucoup de projets à l'avenir.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Jérémy, avant de nous quitter, avant de passer la parole à mes autres invités, un mot sur le loto du patrimoine.
Alors oui, le loto du patrimoine, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que il faut dire que nous, quand on a vu que ça se développait en 2017 ou 2018, je ne sais plus, la première édition, on a voulu y participer tout de suite. Parce que quand Emmanuel Macron avait chargé Stéphane Bern de faire cette mission patrimoine, on reprenait un peu les termes de cette émission qui a d'ailleurs vu la naissance de Rempart, qui était patrimoine en péril ou
Oui,
je sais pas si vous avez connu cette émission à la fin des années 60, début des années 70. Et on a envoyé des photos du château qui était en mauvais état. Alors, ça n'a pas marché tout de suite, mais on travaille à ça, et il se trouve qu'avec, grâce à Rempart, on a une visibilité énorme, et il y a déjà deux sites de Rempart Île-de-France qui ont bénéficié du loto du patrimoine. Et je les cite parce que c'est des amis quand même,
il faut
quand même leur rendre hommage. C'est Marcoussi, l'association du château de Marcoussi, et l'association Lariobé, qui est à Châteaubleau, dans le sud de l'Île-de-France, qui ont toutes les deux bénéficié du loto du patrimoine, aussi grâce au soutien logistique que Rempart leur a apporté. Et nous, on espère bien être les prochains. C'est-à-dire que si on avait le loto du patrimoine, ou pour le château, ou pour l'église, parce que l'église a un clocher absolument sublime, qui mériterait d'être valorisé, eh bien, on serait très heureux. Et en plus de ça, je crois que cette opération de Stéphane Bern est extrêmement positive, car l'engagement de Stéphane Bern là-dedans est un engagement très sincère, est un engagement qui rend le patrimoine beaucoup plus populaire qu'il avait pu l'être autrefois.
Et plus accessible, et
Oui, plus accessible, et qui montre que ce n'est pas quelque chose seulement du passé, c'est quelque chose où on peut s'amuser
comme
aussi
dedans.
Comme
vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait vivre d'autres...
Exactement. En fait, ce qui est très intéressant également avec la Fondation du patrimoine, c'est la vision d'ensemble qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que on ne fait pas une restauration pour la restauration, on fait une restauration pour rendre le monument aux gens. Et c'est vrai que nous, notre devise aussi, c'est valoriser les gens en valorisant le monument.
Merci Jérémy et David pour cette belle démonstration.
Merci.
Je voudrais rappeler que donc vous nous avez cité le Festival des savoir-faire de Rempart à la Bergerie nationale de Rambouillet le dimanche 28 mai, donc dans deux jours. La Fête de la nature à Beaumont-sur-Oise les samedis 27 et dimanche 28 mai.
Tout à fait. Et si vous voulez venir à Beaumont-sur-Oise demain, toute la journée, le Cercle Beaumontois du patrimoine fabrique un hôtel à insectes, puisque nous travaillons aussi à développer la biodiversité, qui aura sa place au château.
Très bien. Alors, je continue. Donc, il y a les journées du patrimoine de pays et de moulins les 24 et 25 juin.
Oui.
Les expositions à l'hôtel du Croissant, peinture et chantier d'hier et d'aujourd'hui qui se tiendra du 12 juillet au 17 septembre.
Oui.
Et enfin, le Salon du Livre Historique d'Île-de-France le dimanche 26 novembre.
Tout à fait. Le Salon du Livre Historique, là aussi, je vous conseille de venir parce qu'on essaye d'en faire un lieu de rencontre entre les sociétés historiques du Val d'Oise et d'Île-de-France et entre tous les gens qui sont passionnés d'histoire et qui aiment lire des histoires.
Oui, j'avais reçu à cette occasion Marlène Erlem et puis...
Et Fabrice Milleroux, notre vice-président.
Merci infiniment, Jérémy David, pour
Merci
cette passion qui reste intacte et que vous savez nous transmettre. Pour retrouver tous les événements dont nous avons parlé, que faut-il faire?
Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page du Cercle Beaumontois du patrimoine, où il y a à peu près toutes les informations. Et vous pouvez également, si vous souhaitez être mis au courant, nous envoyer un mail à cerclebp@gmail.com, où on peut vous mettre dans la liste où vous recevrez toutes les invitations, toutes les activités. Exactement.
Très bien. Merci infiniment. Et puis, toutes ces informations se retrouveront sur notre podcast, bien évidemment.
Oui.
Il est temps de marquer une première pause, on se retrouve juste après.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange, je suis en tête. Sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre. dans cet ascenseur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
Vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct et notre fil conducteur est l'appropriation du patrimoine, qu'il soit historique, citoyen ou artistique. Avec à mes côtés Jérémy David, historien de l'art, animateur de chantier des monuments historiques, membre du cercle Beaumontois du patrimoine à Beaumont-sur-Oise, dont il est le secrétaire général et le responsable des collections archéologiques et artistiques de Beaumont. Miss Confidentielle, éditrice et journaliste du média en ligne missconfidentielle.com. Frédéric Bouchardy, gérant d'une société de consulting Inspiration Consulting, président de la compagnie Latibi. Je bafouille toujours, hein, c'est... voilà.
C'est un peu long.
On enchaîne avec vous, Miss Confidentielle.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je vous laisse vous présenter, Miss Confidentielle.
J'aimerais tout d'abord revenir sur les propos de Jérémy, qui était absolument passionnant. Et j'ai bien noté la date du 18 juin avec la promenade médiévale à Beaumont. Donc j'espère être présente. Et puis revenir également, j'espère. Et puis revenir aussi sur l'auto du patrimoine et saluer le fabuleux travail de Stéphane Merne et des équipes en charge du projet depuis le lancement du loto. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle création, une très belle initiative de sauvegarde, de valorisation de notre patrimoine, qui est tout simplement notre identité, nos racines.
Complètement. Ouais. Alors, Miss Confidentielle, qui êtes-vous ?
Alors, que souhaitez-vous savoir ?
Je vous laisse, vous avez carte blanche.
Je vous remercie. Alors, j'ai créé le média Miss Confidentielle avec un K, .com, donc sur Internet début 2017, lorsque je vivais à Strasbourg. Et l'idée du média est venue assez naturellement, en fait. L'envie de partager des sujets, des articles, des interviews sur des sujets qui me tiennent à cœur et susceptibles d'intéresser les lecteurs. Donc je suis partie sur quatre thématiques qui sont l'évasion, le tourisme, les voyages qui m'ont toujours beaucoup intéressée et aussi parce que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre professionnel à l'étranger. Ça, c'est la première rubrique. La seconde rubrique qui s'attache au sujet de santé, de bien-être, de psychologie. Tout à l'heure, on parlait de méditation. Donc, ça m'a beaucoup parlé, ces notions d'auto-hypnose, hein, finalement. La troisième rubrique qui touche à la culture, au patrimoine. Donc là, je suis, je pense, dans le sujet. Je suis très attachée, je pense que vous l'avez compris, donc au patrimoine.
Et puis la quatrième partie qui est devenue la partie phare, la rubrique phare du média, qui est la rubrique politique et qui valorise en fait ce que moi je considère en tout cas des belles figures tant sur le plan professionnel, parcours professionnel, mais aussi humain, des valeurs humaines auxquelles je suis très attachée. Et donc de personnalités qui évoluent en ministère. Alors, je suis très attachée au ministère de l'Intérieur, donc beaucoup de policiers, de grands policiers que je salue aujourd'hui, de gendarmes également qui sont très présents, mais aussi des belles personnalités, des belles figures du ministère des Armées, avec un attachement particulier pour l'armée de l'air et l'espace. J'apprécie beaucoup les avions, les vieux coucous. Et puis également des belles personnes du ministère de la Culture, de la Justice, de l'Éducation nationale, par exemple.
Merci, Miss Confidentielle. Alors, ce nom, Miss Confidentielle, pourquoi un pseudonyme ? Pour vous préserver, avoir une plus grande liberté dans votre activité ?
C'est une excellente question que l'on me pose très très souvent depuis la création du média et je trouve ça justement très rigolo parce que je retourne la question.
Oui.
Et donc j'ai de multiples interprétations sur mon pseudo et ça permet de créer en fait un lien très très rapidement. D'ailleurs, je peux me permettre de dire qu'en arrivant, c'est la première question qu'on m'a posée.
Absolument, un autre invité.
Absolument. Donc c'est assez rigolo, donc ça a enclenché la conversation. Alors des explications pour être plus précise, il y en a de très nombreuses. Pourquoi Miss Confidentielle, Miss, parce que c'est un côté, on le comprend, féminin, sympathique, abordable. Un petit côté léger aussi, on se prend pas au sérieux parce que je ne pense pas me prendre au sérieux. Et puis le côté confidentiel avec un K, donc je complique un petit peu la donne. Et donc confidentiel parce que avant toute chose pour pouvoir créer un je dirais pouvoir réaliser en fait les interviews que je publie, il faut créer un climat de confiance et ça c'était dit d'ailleurs pas plus tard qu'hier sur un réseau que j'affectionne particulièrement qui est LinkedIn, où je suis très présente, sous le pseudo, justement, Miss Confidentielle. Alors, on m'appelle Miss Confidentielle, Miss K aussi, c'est un autre de pseudo plus synthétique, donc c'est assez rigolo. Et donc, du coup, il faut un climat de confiance, il faut convaincre, en fait, l'interviewer qu'il y a une confidentialité, que tout ne pourra pas être publié, et qu'il y aura aussi du conseil de ma part, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des informations que je proposerai en fait à l'interviewer, que c'est pas forcément utile d'aller jusque-là, notamment dans la sphère privée. Donc un climat de confiance. Voilà. Après, il y a d'autres explications, je ne vous le cache pas, mais je les garde pour moi.
Très bien. Alors, moi, ce qui m'a terriblement impressionnée, Miss Confidentielle, quand j'ai préparé l'émission, c'est ce que vous appelez vos marqueurs. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes une boulimique de connaissances, puisque vous avez un diplôme de maîtrise administration économique et sociale, un diplôme de technicien praticien en PNL, des modules du centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, des modules à l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et aussi l'EFB, une école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Vous êtes impliqué dans le handicap international, vous êtes impliqué dans la FOSA, Police à Action Solidaire. Les quatre patounes, l'école Marianne, et puis je termine. Vous êtes chef d'escadron de la réserve de la gendarmerie nationale.
Alors, absolument.
Pourquoi tous ces choix ?
Alors, vous l'avez dit, en fait, alors boulimique, je peux pas dire ça, parce que c'est pas forcément très très positif comme terme, mais
c'est quand même une appétence pour plein de sujets.
Je vous avoue que je suis une passionnée de la vie. Et je suis passionnée par de nombreux sujets, tant professionnels aussi sportifs.
parce que j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup d'activités sportives. Donc j'aime la vie, c'est vrai que je le cache pas. Et j'aime partager aussi ce que j'apprends, ce que je découvre et faire des liens aussi, énormément de liens. C'est vrai que les interviews, ma présence aussi, mon action sur LinkedIn a créé de très nombreux liens, que ce soit en interpolice, par exemple, intergendarmerie, mais aussi entre la police et la gendarmerie, entre la police, la gendarmerie et la justice. Il y a des partenariats qui sont montés. Donc je me sens utile dans ce que je fais et je trouve que c'est pertinent. Je vois des résultats, je vois que de nombreux sujets avancent et quand je peux participer au bien commun, je le fais avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie et aussi beaucoup de fierté.
C'est ça. Votre mot d'ordre, c'est le vivre ensemble.
Absolument.
Oui. Alors, donc on a bien compris, vous êtes éditrice, journaliste. Comment voyez-vous l'évolution de ces métiers ?
Ah, c'est une question très, très compliquée, très, très complexe en fait, parce que le métier de journaliste a énormément évolué. Moi, je pratique justement ce métier-là depuis très peu de temps, hein, depuis 2017 finalement, donc c'est vraiment très récent, c'est pas mon métier de base. En fait, je me suis improvisée d'une certaine manière journaliste en souhaitant partager des sujets qui viennent du cœur finalement, parce que le média me ressemble en fait, c'est une forme de bébé, hein, tout simplement. Moi, je fréquente des journalistes en fait depuis une trentaine d'années. C'est vrai que j'ai des amis et puis ma vie professionnelle a fait que j'ai rencontré et j'ai de nombreux amis qui sont journalistes. C'est un métier qui s'est complexifié dans le sens où à l'origine, les journalistes travaillaient dans les médias, ils étaient salariés, ils étaient posés. Il y a eu une démultiplication en fait de pigistes du fait des médias, hein. Ce sont des choix aussi qui sont souvent économiques, hein, et qui sont aussi stratégiques, hein, d'une manière générale, et beaucoup de journalistes sont retrouvés sur le bas-côté, à devoir se battre finalement pour gagner leur vie. D'un autre côté, j'ai pu constater aussi de nombreux retraités qui ne voulaient pas quitter la barre et qui poursuivaient aussi leurs actions d'écriture sans être payés, pas forcément, et donc ils prenaient la place d'une certaine manière des jeunes qui arrivaient sur le marché de l'emploi. Donc tout ça est très compliqué. Et puis on a plus récemment donc le développement des réseaux sociaux en fait. Hein, je vous apprends rien et donc n'importe qui aujourd'hui peut être journaliste, hein, peut créer son compte Insta, peut créer son compte TikTok et promouvoir la bonne parole en fait d'une certaine manière. Et on a de tout. On a des vraies informations et ce qui m'effraie, c'est la démultiplication des fausses informations, ce qu'on appelle les fake news. Et c'est vrai que mon média s'attache à publier des vraies informations. Et là où je suis vraiment heureuse, c'est de constater que de nombreux journalistes viennent en fait chercher des infos chez moi en fait. Donc ça fait partie aussi des satisfactions de savoir que c'est une belle personne que j'ai pu interviewer. Ne subissent pas en fait des questions qui sont maladroites volontairement ou involontairement ou en tout cas par manque d'informations et viennent chercher des vraies infos et sont interviewés convenablement en fait sur d'autres médias.
C'est peut-être l'occasion de dire que vous parlez de ces fake news, mais sur les moteurs de recherche, il est possible de vérifier si c'est ou non une fake news. Et donc, je trouve que c'est important de le dire.
Absolument.
De pas, bien sûr, gober tout de suite ce qui est écrit ou entendu et d'aller vérifier la véracité.
Après, tout le monde ne le fait pas. Oui, donc, c'est un véritable exercice. C'est important. Il faudra prendre l'habitude. J'en profite pour dire aussi l'importance de nous former, nous, en tant qu'adultes, en tant que responsables, mais aussi les jeunes. Et signaler aussi le point très positif au sein de l'éducation nationale, parce qu'il faut toucher les élèves et tout petits, hein, parce qu'on se rend compte maintenant que les enfants dès l'âge de 6 ans, 5 ans sont sur le téléphone bien souvent des parents et ont accès à toutes les informations, des fausses informations, un peu n'importe quoi. Et j'aimerais saluer le travail notamment de Génération Numérique, qui est une association, c'est Cyril Di Palma qui la dirige, et qui forme justement dans les écoles les jeunes à découvrir, en fait, à réfléchir sur les informations et à faire attention à éviter les fake news, en tout cas à les déceler. Il y a d'autres associations aussi, comme Tous Uniques, Tous Unis, avec Abel Bouy, que j'ai pu suivre assez récemment à Magnanville dans le 78 pour la promo 16-18, et constater justement la méconnaissance des jeunes, et qui effectivement bien souvent ont tendance à tout gober, comme vous le disiez.
Oui, oui, très bien. Alors, je pense qu'il va falloir que vous reveniez, Miss Confidentielle, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout analyser. Peut-être un mot sur votre engagement vis-à-vis du centre de ressources pour intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles.
Alors, il ne s'agit pas d'un engagement. Il s'agit en fait de formation que j'ai suivie.
Oui.
Et je vous en avais parlé effectivement au préalable. Donc, je vous remercie de venir sur ce point-là. C'est effectivement des formations qui permettent de mieux comprendre en fait les fonctionnements et les dysfonctionnements que l'on peut avoir en matière de suivi, d'accompagnement, que ce soit aussi bien au niveau de la police, de la gendarmerie, de la justice, en psychiatrie, vis-à-vis des adultes, mais aussi des jeunes qui commettent des violences sexuelles. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, en fait, c'est pas une critique, hein, c'est tout ça pour vous dire que tout est très complexe. Mmh. Aujourd'hui, on est vraiment sur des sujets, ce qu'on appelle les sujets vifs, donc de violences intrafamiliales. J'en profite pour saluer la ministre, madame Isabelle Rome, qui fait un travail absolument magnifique, justement, qui est en charge de l'égalité femmes-hommes, qui a mis en place les bracelets électroniques, également aussi les téléphones grave danger,
oui.
Qui encore récemment justement s'est rapproché des maisons de protection des familles, de la gendarmerie, justement
qui vient de lancer le pack financement,
absolument,
que nous avons, ouais, eu l'occasion de, enfin nous avons eu l'occasion à IDFM de rencontrer, oh, madame, oui, Isabelle Rome pour un sujet, oui,
absolument. Mais le sujet FIF est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et j'ai pu constater à l'époque où j'étais à Strasbourg au moment de la pandémie la démultiplication justement des violences au sein des familles, les hommes vis-à-vis des femmes, des mamans, aussi vis-à-vis des enfants. Et ça, je considère qu'on n'en a pas assez parlé pendant la pandémie. On parlait beaucoup des mamans, mais pas assez des enfants. Mmh. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui que les politiques s'intéressent aux enfants. Et ce qu'ils font d'ailleurs, je pense, très bien. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
Alors, en une minute, Miss Confidentielle, quels sont vos besoins?
Ah, les besoins aujourd'hui, je veux dire, les besoins, c'est un bien grand mot, hein. Il n'y a pas de nécessité absolue, mais mon désir, en tout cas, c'est de pouvoir permettre à un plus grand nombre de découvrir, hein, d'accéder, de lire en fait mon média et surtout mes interviews, découvrir en fait les belles personnes qui nous soutiennent en fait, qui nous accompagnent au sein des pouvoirs publics. Je précise tout de même que j'ai une notion apolitique extrêmement important, hein. Je suis pas là pour valoriser le gouvernement ou des membres du gouvernement, mais l'État et des membres de l'État.
Mm-hmm.
Ce qui est pas du tout la même chose. Et donc, j'aimerais effectivement être plus présente en radio, comme aujourd'hui, et pouvoir m'exprimer auprès de votre communauté à Enghien et plus qu'Enghien, parce que c'est toute l'Île-de-France, hein, en fait.
Absolument.
Hein. Donc, je suis ravie d'être là, justement, pour faire découvrir le média. Et puis, peut-être, effectivement, un jour, pouvoir être sur une émission et pouvoir interviewer, justement, les belles figures que je fais par écrit et le faire à l'oral en radio. Voilà, je passe, voilà, un message.
Un message bien reçu.
Merci.
Très bien. Alors, une actualité à nous annoncer. Miss Confidentielle, c'est donc non, en fait, vous nous avez tout dit,
c'est celle-là, c'est en ça. Fait, tout simplement, et puis inviter les auditeurs à venir sur le média. Donc, Miss Confidentielle, pas avec un C, c'est le piège, mais
oui,
on me trouve quand même avec un C, missconfidentielle.com et sur LinkedIn aussi avec le pseudo, et je pense que vous l'avez compris, parce que Jacqueline, vous avez fourché en début d'émission, mon prénom est Valérie.
Ah ben, je me suis même pas rendu compte que j'avais fourché, vous voyez. Ça, c'est mon grand problème. Donc, merci, Miss Confidentielle. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour tous vos engagements. Et puis, vous nous tiendrez informés de votre projet d'émission radiophonique et peut-être même télévisée.
Avec grand plaisir.
On vous souhaite toute la réussite dans la continuation de vos actions.
Merci.
Un peu de musique avant de retrouver mon troisième invité. À tout de suite.
Il paraît que les nouvelles ne sont pas si bonnes, que le moral descend et que les forces t'abandonnent. J'entends tous les gens parler de tes histoires, que l'avenir qui t'attend se joue sur le fil du rasoir. Qu'en est-il de
IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Un instant privilégié pour aborder des thématiques qui font notre quotidien. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de patrimoine, un ensemble complexe fait d'histoire, de culture, de citoyenneté, d'échange. Et je suis toujours en compagnie de Jérémy David, historien de l'art, animateur de chantier des monuments historiques, membre du cercle Beaumontois du patrimoine à Beaumont-sur-Oise, dont il est le secrétaire général. Miss Confidentielle, éditrice et journaliste du média en ligne missconfidentielle.com. Frédéric Bouchardy, gérant d'une société de consulting Inspire Action Consulting, président de la compagnie Let It Be. À présent, focus sur vous, Frédéric Bouchardy.
Bonjour.
Je voudrais remercier au passage Guillaume Sarrazin qui nous a mis en mission pour pouvoir faire cette émission aujourd'hui.
Exactement. Donc, Guillaume est trésorier de la compagnie.
De la compagnie.
Tout à fait.
Alors vous, Frédéric, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes le président de la compagnie Let It Be. J'ai trouvé que c'était un nom très nostalgique, Let It Be.
Alors effectivement, le nom de la compagnie a été décidé un petit peu par le sens qu'il révèle. En fait, c'est arrivé effectivement au mois d'août dernier, et pour des raisons totalement personnelles, il y a eu un basculement dans ma vie privée, et je me suis dit quelque part qu'il en soit ainsi. Et je trouvais que le Let It Be était effectivement approprié. Vous savez que d'un point de vue purement communication, on a besoin aussi de trouver des noms qui marquent et qui marquent l'esprit et qu'on le retient facilement. Je trouvais qu'effectivement, l'air de rien, compagnie Let It Be, ça marquait. J'ai pu constater avec étonnement que ce nom n'était pas tant déposé que ça. Parce que bien sûr on a déposé.
Bien sûr.
Ouais. Et donc voilà. Donc on s'est dit voilà, c'est une pierre deux coups. Et puis allons-y, faisons, parce que bon, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais c'était un challenge. Il y avait des choses en cours qu'il fallait lancer, et on s'est dit allez, go, on y va. Donc voilà, ce nom de compagnie était vraiment approprié.
Alors quelle est l'histoire de cette compagnie? Alors, qui a été créée, je rappelle, en août 2022.
Exactement. Alors en fait, j'étais président d'une autre compagnie avant, et il s'est avéré que j'ai eu besoin, pour, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons personnelles, de recréer une nouvelle compagnie. Tout simplement parce que j'avais passé commande auprès de Julien Joubert et Gaël Épingle d'une comédie musicale sur Colette. Et donc, à ce moment-là, j'avais deux options. Soit on abandonnait le projet, soit effectivement je créais une nouvelle compagnie pour continuer ce projet-là. Et donc il faut savoir que Gaël était en pleine écriture de la comédie, il était à Berlin à ce moment-là, et je me voyais mal l'appeler pour lui dire finalement il y a des changements, on va pas pouvoir continuer. Voilà.
Oui.
Et bien sûr Julien commençait déjà à réfléchir aux musiques, etc. Donc s'agissant de personnes extrêmement importantes et compétentes dans leur métier, ceux qui les connaissent le savent, voilà, je me voyais pas.
Rappelez-nous un peu leur palmarès si vous voulez.
Alors Julien Joubert, qui est le compositeur de la musique, c'est un peu le pape français de l'opéra pour enfants. Mmh. Il compose énormément d'opéras pour enfants, de musique de film. Il travaille beaucoup avec, il collabore avec Gaël Épingle depuis maintenant 30 ans. Donc il fait également des musiques de films ou de documentaires, parce que Gaël fait des documentaires et des films. Voilà, donc Julien Joubert est effectivement quelqu'un de très honorable, et en plus il a c'est ce que j'admire beaucoup en lui, cette capacité. Mais Gaël aussi, ils vont bien ensemble. C'est, vous savez, quand vous avez des gens extrêmement doués, pour pas dire un peu géniaux, au sens réel du génie. Ils ont une simplicité d'approche, une simplicité pour vous expliquer les choses, et ils vivent très simplement. Alors que ce qu'ils font est pour moi effectivement absolument extraordinaire.
Incroyable.
Et c'est aussi ce plaisir de création de cette compagnie, c'est d'avoir la chance de côtoyer des gens comme eux, entre autres, on parlera des autres personnes qui nous entourent, mais qui me permettent moi de profiter, je bois du petit lait, c'est-à-dire quand on fait une répétition, quand on va manger ensemble, quand on va boire un verre ensemble, c'est absolument formidable de pouvoir échanger avec des gens aussi cultivés, un petit peu comme les personnes qui nous entourent aujourd'hui. Et effectivement, et moi adorant la musique, adorant le cinéma, adorant le théâtre, voilà, je prends beaucoup de plaisir avec eux. Donc Julien Joubert, et puis Gaël Épingle, effectivement, qui a également eu de nombreux prix, qui est réalisateur, qui écrit des pièces, qui anime un certain nombre d'événements, notamment à Orléans. C'est lui qui avait mis en scène, alors excusez-moi, je n'ai plus le titre en tête, mais il y avait effectivement une représentation qui avait été faite au Zénith d'Orléans. Il y avait 200 personnes sur scène, et c'est lui qui s'occupait de tout ça. Donc avec Julien à la musique, avec le frère de Julien qui s'occupait de la production, voilà, c'est effectivement des gens extrêmement talentueux qui peuvent à la fois faire des courts métrages, donc des choses extrêmement intimistes, et à la fois faire des grandes œuvres. Et pour finir sur Gaël, ce que j'adore aussi, c'est sa façon de filmer. Gaël a, alors peut-être parce qu'il est effectivement au conservatoire, alors en fait avec Gaël et Julien on s'est rencontrés effectivement il y a 30 ans au conservatoire d'Orléans. Ils avaient déjà monté deux comédies musicales dans lesquelles j'ai eu la chance de jouer. À l'époque j'étais trompettiste, il y avait Marion Cotillard à l'époque qui était effectivement élève aussi, donc qui avait joué avec nous, et effectivement, Gaël, dans ses films, je trouve d'abord, il a une façon de filmer que je trouve extrêmement douce et poignante. Et en plus, il a l'art et le talent qu'ont pas forcément tous les réalisateurs de mettre la bonne musique au bon endroit et la bonne séquence de musique. Et il n'y a rien de plus frustrant pour moi d'avoir un film qui est bien filmé et où la musique est un peu... Bon, on l'a mise parce qu'il fallait remettre
pour combler. Oui, parce qu'en plus, vous avez cette oreille de professionnel. Oui. Parce que c'est ce que je voulais dire, et vous, c'est bien de l'avoir dit avant moi, mais vous êtes un artiste à la base. Et alors, c'est peut-être ça qui vous a donné aussi envie, ce goût pour créer ces compagnies.
Alors, la compagnie, oui, j'ai eu la chance de faire de la trompette et du piano, et de la trompette au Conservatoire d'Orléans pendant de très longues années. Je suis diplômé de ce conservatoire. Donc, effectivement, j'ai une âme de musicien. C'est vraiment le hasard qui a fait que, en fait, j'ai eu une vie assez
riche,
voilà, je trouvais pas le terme. Et effectivement, j'étais parti vivre quelques années au Gabon avec la mère de mes enfants. Et quand je suis revenu en France, j'ai repris contact par hasard avec Gaël et Julien. Et il y a eu quelque chose. À l'époque, c'est le constat qu'on avait fait. On n'était pas spécialement amis hein, quand on avait, voilà, on était membres d'une équipe. On s'entendait très bien, mais une fois que les comédies musicales sont arrêtées, on n'a pas gardé le contact spécialement. Et en 2017, le fait de reprendre contact avec eux et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors ça a duré quelques mois. Hein. On a réfléchi. Il y a eu des idées, etc. On voulait reprendre des comédies musicales de l'époque. Puis on s'est dit ça va pas pour telle et telle raison. Très bien. Et finalement, on est tombé sur ce thème de Colette, qui est donc la première œuvre qui est produite par la compagnie. Et puis il y en a d'autres maintenant. Et effectivement, on s'est dit allez, on y va. Et on a retrouvé. Et moi, j'ai adoré cette fibre, cette facilité avec laquelle Julien, quand on était au restaurant, je me souviens très bien, la première fois qu'on en a discuté, il a dit, je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez faire ce projet-là? Si oui, combien? Parce qu'on est une compagnie, on n'a pas des fonds illimités,
etc. Oui, on va en parler.
Et on va en parler. Et il m'a dit, on s'en moque du prix, on s'en moque de quoi on le fait. Et ouais, voilà. Et c'est simple, sincèrement, ouais, c'est le symbole de cette compagnie. Ouais. Ouais. En fait, c'est cette fraternité que j'ai eue d'eux et également d'autres personnes. Il y a eu Émilie Frater qui s'occupait de la communication. Il y a mon associé Mélanie Rose qui m'a également soutenu, associé dans la compagnie, dans Aspiration Consulting. Il y a eu, un certain nombre de gens qui sont venus, Florent Brault, etc., qui m'ont soutenu et qui m'ont dit c'est une super idée. Il faut absolument pas lâcher et vas-y et voilà. Donc quand on est porté, voilà, tout est possible.
On en revient
au début de l'émission avec le texte de Pierre.
Absolument. Ouais. Une compagnie qui est basée où?
Au Vésinet.
Oui.
Donc dans les Yvelines. Voilà.
Est constitué de combien de personnes aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, en fait, la compagnie en tant que telle, il y a que deux personnes, puisqu'il y a le président et le trésorier. Mais en fait, en fonction des projets, on fait intervenir des musiciens, des compositeurs, des metteurs en scène, des comédiens, bien évidemment. Donc ça dépend des sujets. Sur la comédie musicale actuellement, il y a trois personnes qui travaillent réellement dessus. Donc il y a Gaël Épingle, Julien Joubert qui ont composé, donc écrit les textes. On a Élodie Menant qui est comédienne illustre que beaucoup connaissent puisqu'elle a eu deux Molières en 2020 et elle a été nommée encore cette année pour cinq Molières. Voilà. Et donc elle nous accompagne également là-dedans. Et puis après, bien sûr, on a des comédiens qui viennent pour faire des lectures, qui viennent pour nous aider à avancer sur le projet. Donc voilà, c'est un pool, on va dire, une dizaine de personnes en tout. On a également une pièce qui est en train d'être qu'on aimerait bien monter sur Garde à vue, le film Garde à vue. Oui. Effectivement, donc là, je suis en discussion avec d'autres comédiens. Il y a un one-man show, qui est le one-man show de Julien Joubert, et également sur lequel on travaille et qui va être joué à la fin de l'année, donc du 7 septembre au 21 décembre au Théâtre Galabru.
Voilà. On va redire tout ça. Je voudrais vous poser la question, comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à en vivre?
Alors, on vit effectivement principalement du mécénat. Comme vous l'aurez compris, on a besoin de louer des salles pour faire les répétitions, on a besoin de louer des théâtres, parce que les théâtres se louent, c'est rare les coproductions. On a besoin de payer les frais des comédiens qui viennent faire les lectures, on a besoin de payer les décors, les costumes, etc. etc. Donc, on a créé une page LinkedIn avec notre chargée de communication et Émilie pour pouvoir effectivement interpeller à la fois les particuliers, mais sur LinkedIn c'est plus les professionnels parce qu'ils ont des leviers plus importants pour leur dire voilà, nous on est en train de créer des choses formidables avec des gens sérieux. C'est vraiment la marque de la compagnie. Et vous pouvez venir nous aider. Et si vous venez nous aider, c'est pas n'importe comment, c'est pas uniquement nous donner de l'argent.
C'est pas fond perdu.
Voilà, c'est pas fond perdu. C'est un risque qu'ils prennent. D'ailleurs, je tiens à saluer. Alors c'est un paradoxe, ils ont le même nom, mais ils s'appellent Let It Be Consulting, qui est l'un de nos mécènes, qui effectivement nous aide financièrement pour la réalisation de ces projets. Et l'idée, c'est de dire très bien, vous nous donnez de l'argent, vous nous aidez, c'est formidable. Ben nous, en compensation, on va non seulement vous offrir des places pour vous, mais pour vos collaborateurs, pour vos clients, parce qu'ils sont également consultants, et on va également organiser des repas avec les comédiens, avec le metteur en scène, etc., pour lesquels vous allez pouvoir échanger. On va pouvoir privatiser en fonction après des montants, hein, bien sûr. On va pouvoir privatiser un théâtre et puis faire un séminaire. Voilà. Donc on a différentes options que l'on peut proposer aux mécènes pour leur dire, pour les remercier, pour leur dire, ben voilà, vous nous aidez. Donc nous, on va consacrer également du temps à votre société, à vos collaborateurs et ou à vos clients pour vous remercier.
C'est ça. Donc, vous appelez ça des team building, éventuellement.
Alors, ça c'est l'une des offres, effectivement, de la compagnie. Ça vient. Alors, on a la chance de produire Julien dans son one man show qui s'appelle Tout le monde écrit des chansons. Et en fait, comme on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est vraiment un one man show où à la fin, Julien compose une musique avec le public. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de participatif et de bienveillant, parce que il invite les gens à chanter avec lui s'ils ont envie, s'ils n'ont pas envie, ils chantent pas. Peu importe. Et en fait, on s'est dit, mais ça c'est formidable, parce que les team building, effectivement, en général, on affronte des groupes de gens pour renforcer la cohésion, mais il y a quand même cette notion de compétition toujours. Là, le fait de composer ensemble à 10, 15, 20, 50, ça peut aller jusqu'à 200 personnes, hein. Julien, rien ne lui fait peur, il peut effectivement faire ça devant un grand public. Il va composer une musique, donc il va proposer des poèmes au choix, donc le public va dire, bah, tiens, je préfère tel ou tel poème, ça nous correspond plus que les autres. Et puis après, il va dire, bah voilà, donnez-moi des notes, bon, pour la main gauche, pour la main droite, et lui improvise une musique à ce moment-là sur le poème. Et donc ça veut dire que les gens à la fin du team building repartent avec une musique unique qui a été composée pour leur service, leur site ou leur entreprise. Et donc je trouve que c'est un marqueur fort humain, respectueux, bienveillant. En plus, Julien a cette capacité, comme je le disais en début d'interview, d'avoir une simplicité dans l'approche. On n'est pas du tout dans des explications extrêmement complexes de la musicalité, etc. Voilà.
Dans un art toujours accessible.
Exactement. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent à ces représentations, beaucoup d'adolescents. Mes enfants sont venus, ils sont morts de rire pendant une heure et demie. Voilà. Donc c'est vraiment apporter non seulement quelque chose, et puis le fait d'être mécène d'une compagnie de théâtre, je trouve que ça montre aussi aux entreprises, on ne fait pas que d'acheter des goodies qui viennent de Chine, on ne fait pas que d'acheter des choses, que du matériel, on investit dans la culture. Alors tout à l'heure vous parliez de patrimoine, hein, on en parle depuis le début de l'émission, c'est très important.
C'est le cas.
Voilà, c'est soutenir le patrimoine.
Je pense, fait complètement partie du patrimoine.
En plus, exactement, absolument. Du patrimoine musical mondial.
Oui.
Et effectivement, donc là, c'est soutenir le patrimoine, c'est soutenir des textes. Alors là, on fait en plus une comédie musicale sur Colette. Donc c'est effectivement, on parlait tout à l'heure, je fais le pont aussi avec les autres invités, des violences faites aux femmes. Colette. Et c'est aussi la raison pour laquelle on l'a choisi, c'est le symbole de la femme autonome et indépendante.
Absolument.
Et autonome et indépendante au-delà même du féminisme. C'est-à-dire qu'elle ne s'inscrivait pas dans des mouvements.
Absolument.
Elle était féministe pour elle-même. Mmh. Elle le disait, elle assumait ce qui pouvait déranger certains. Mais je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'elle allait jusqu'au bout du bout. Elle a imposé son mode de vie, sa sexualité, sa volonté d'être autonome financièrement. Et effectivement, c'est un exemple, je trouve, aujourd'hui, et j'en parle d'ailleurs volontiers avec ma fille, parce que je trouve que c'est important de savoir qu'il y a des femmes comme ça qui, quelque part, se sont battues aussi pour les femmes d'aujourd'hui, que ce soit directement ou indirectement.
C'est une chaîne.
Exactement.
Frédéric, donc, on a bien compris, hein, la compagnie Let It Be, c'est pour passer du bon temps, une envie de se dire que le théâtre peut être partout, en gardant un formidable souvenir si on repart avec sa musique, une musique qu'on a composée soi-même.
C'est un peu le thème aussi qu'on a trouvé de la compagnie, c'est la culture ne vaut que si elle est partagée avec tous.
C'est vrai.
Parce que on l'a vécu pendant le confinement, pour tous les acteurs culturels de France. Bon, on n'est pas là pour discuter du bien fondé ou pas. Hein. Mmh, je pense qu'il y avait une nécessité qui était là, mais ça a été une grande frustration à la fois pour ceux qui font
surtout pour les
la culture,
artistes, ouais,
voilà,
ouais.
Et à la fois pour ceux ne pas aller au théâtre. Pour nous, c'était absolument terrible de pas aller voir un concert, ne pas aller au cinéma, etc. Donc effectivement, et là, on s'est rendu compte finalement, ces événements-là nous permettent de nous rendre compte à quel point on tient à la culture, à quel point on en a besoin, à quel point c'est fondamental pour nous. Et donc voilà, c'est aussi ça qui, à la sortie du confinement, m'a convaincu. C'est l'un des éléments qui m'a convaincu, le fait de dire, allez, on y va, et on va créer des choses ensemble, et on va faire des belles choses, en tout cas, on va essayer.
Oui,
et
puis ce qui fait la richesse d'un pays, c'est pas seulement son économie, mais c'est
non.
aussi sa culture.
C'est indispensable.
Frédéric Bouchardy, un mot pour nous rappeler les événements, les Colette et puis les autres spectacles.
Colette est en cours de création, donc pour l'instant on n'a pas de date.
D'accord.
On espère en avoir très prochainement. Je rappelle donc Julien Joubert qui effectivement sera au Théâtre Galabru Montparnasse à partir du 7 septembre jusqu'au 21 décembre. Dans tout le monde peut écrire des musiques et puis après on aura, surtout suivez-nous sur notre page LinkedIn, sur donc on a une page Facebook et on a une page Instagram et vous aurez toute l'actualité de la compagnie au fur et à mesure.
En tout cas, nous, à IDFM Radio, on va vous suivre, c'est sûr et certain.
C'est très
gentil. Si vous avez des communiqués de presse à nous faire passer, on les passera très volontiers.
Merci beaucoup.
Merci Frédéric Bouchardy d'être venu dans nos studios pour nous présenter cette compagnie. Et puis, on souhaite longue vie à Let It Be.
Merci.
Voilà, l'émission se termine, mais pas avant de vous redonner la parole, avant de nous quitter. Alors, Jérémy, David, un mot avant de nous quitter.
Peut-être deux mots.
Deux mots.
Parce que je suis très heureux d'entendre le nom de Gaël Lépingle, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et il a fait un film récemment, enfin un triptyque qui s'appelle Les garçons de province. Et je suis très heureux de savoir qu'il est passé par la comédie musicale, parce que ça explique pas mal de choses. Car dans le film, il y a une musicalité des images qui est formidable. Et c'est un excellent réalisateur, je le conseille.
Écoutez.
Et enfin, je terminerai par dire que on doit toujours être vigilant. On parlait de fake news tout à l'heure, mais aussi sur les fake news historiques. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir, on parlait de légendes tout à l'heure, que les gens s'imaginent des choses, ont des préjugés, mais c'est pas grave, il faut pas les condamner, faut les accompagner et essayer
rétablir.
De déconstruire leurs préjugés, et c'est peut-être encore mieux qu'ils commencent par avoir des idées fausses et que des gens qui ont travaillé sur les sources, qui ont travaillé sur sur l'histoire, leur expliquent que c'est différent. Et ça leur fait un cheminement, je trouve, beaucoup plus positif comme ça.
Ben voilà, écoutez, une belle, un joli lien avec mes autres invités. Merci infiniment, Jérémy, David, merci d'être venu et à très vite, j'espère.
Merci beaucoup.
Miss Confidentielle, un mot de conclusion, une minute.
Une minute, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Je voulais remercier déjà Frédéric pour toutes les informations qui ont été transmises. Donc je ne manquerai pas de vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, tout simplement dire que ça fait 3 jours que je suis en Guerre-les-Bains,
oui,
et que je m'y sens bien.
Écoutez, merci pour cette ville que nous on adore aussi.
C'est une ville qui permet de se ressourcer d'une manière absolument incroyable, surtout quand on est parisien, avec un stress parisien absolument épouvantable, comme beaucoup de gens savent quand on passe à Paris, avec la pollution sonore et la pollution atmosphérique. Mm-hmm. Et venir à Enghien, c'est un bain de jouvence. Aller près de l'eau comme ça et respirer, se balader dans les jardins. Il faut quand même dire que la municipalité fait quand même un travail assez formidable de soins de la ville, des bâtiments et des jardins aussi qui sont absolument superbes.
C'est vrai, on a l'impression vraiment d'être dans un lieu de villégiature. Hein. Quand il fait beau, on n'imagine pas qu'on est si près de Paris. Merci Miss Confidentielle.
C'est
à
moi
très
qui
bientôt,
vous remercie
j'espère.
Pour l'invitation. Oui, avec grand plaisir.
Frédéric Bouchardy, minute aussi.
Très très vite, je voudrais juste parler. J'ai la chance d'avoir une compagne, Laure, qui est céramiste à Gers, dans la ville de Gers, et qui va exposer Alors j'en parle un petit peu, parce qu'en fait, c'est avec le lien avec le thème de l'émission, c'est notamment sur les femmes battues, et elle va exposer des bustes de femmes qu'elle a elle-même, bien sûr, créées. Donc c'est au musée de Gers, c'est entre Flers et Vire, en Normandie, tout l'été. Vous pouvez aller le voir, et effectivement, je suis un peu pris, mais je trouve que ce sont de très belles œuvres. Allez voir, et elle symbolise effectivement cette évolution de la femme, et puis ce contexte qui peut être parfois violent et caché, malheureusement.
Merci Frédéric, c'est une région que je connais très bien, je vous dirai après pourquoi, après l'émission. Merci Frédéric Bouchardi. Et puis toutes mes amitiés à Guillaume Sarrazin, je ne sais pas s'il nous écoute, mais voilà, merci de nous avoir
merci beaucoup.
Mis en relation. Voilà, merci infiniment, merci, c'est vraiment la fin de l'émission, merci d'avoir été les invités en direct de cette économie en direct. Merci Francky pour la technique. Merci à tous qui, nos auditrices et auditeurs, d'avoir été à notre écoute et d'être fidèles au rendez-vous. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son intégralité se retrouvera sur le podcast via idfm.fr. À 11h, balade musicale avec Christophe Gravreau. Mardi, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'économie en direct. Bon week-end et continuez à prendre grand soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.